Voilà, nous étions interrompus au moment où nous avons rencontré les deux Anglaises, dont une était noire et qui était d'ailleurs la seule parlant français. Alors nous avons accepté de les prendre avec nous. Nous sommes mis d'accord pour partager les frais d'essence parce que c'est vrai que l'essence était très chère quand on en trouvait. Et nous voilà partis donc à 5, le Dogon, les deux Anglaises, mon épouse et moi, et 6 avec le chauffeur même. Nous n'oublions pas le chauffeur. Et nous sommes partis donc, nous sommes allés à Sanga, donc Sanga qui est toujours. En fait, nous sommes allés à Sanga pour quand on a fait le tour le tour du pays Dogon, une exploration un peu du pays Dogon qui s'est révélée délicieuse et je rêve uniquement, je ne rêve que d'y retourner, hein, tellement c'est agréable. Ceci étant terminé, nous sommes partis pour Mopti, qui est un port sur le fleuve, dont je ne me souviens plus le nom. Et qui est assez original. Là, nous n'avons pas eu de problème particulier. Nous avons visité ce que nous avions à faire. Nous étions dans un bon campement. Nous entendions bien avec les deux Anglaises. Et c'est là qu'on a décidé de se séparer du Dogon parce que, en fait, ça faisait quand même quelques jours qu'on le trimballait et visiblement, c'est un peu l'habitude chez ces gens-là. Ils vivaient à nos crochets, quoi. C'était le pique-assiette. On a dit, bon, ben là, ça suffit maintenant, qu'il se débrouille un peu. On lui a dit qu'on n'allait pas dans le même sens que lui et qu'on allait le laisser là. Et nous sommes partis ensuite pour Djéné, qui est une ville sainte, qui a une très belle mosquée typique du coin en terre avec une armature en bois dont on voit les morceaux de bois qui dépassent. C'est tout à fait remarquable et typique. Et Djéné, nous savions déjà par le guide du routard qu'il y avait quelques problèmes avec les enfants de Djéné, qui essaient toujours les mêmes histoires. Hein, ils essaient de prendre de l'argent au maximum. Et c'est là que la recommandation que m'avait faite. C'était un descendant du cheikh Omar, paraît-il, qui avait islamisé l'Afrique noire. M'a servi parce que l'un des enfants qui nous enquiquinait, je lui ai dit que je connaissais cette personne, que s'il continuait, c'est moi qui en parlerais. Il m'a dit, il ne le croyait pas quand je lui ai montré le mot qu'avait marqué la personne en question. Ils se sont tout de suite assagis. Il a parlé dans son dialecte avec son copain. Et ils nous ont accompagnés d'une façon très gentille, pas du tout agressive. Et à la limite, si on n'avait pas voulu leur donner d'argent, ben on aurait très bien pu ne pas leur en donner. Voilà. Donc ça s'est très très bien passé. En plus, il n'y avait pratiquement personne comme Européens. Nous étions seuls. C'était très calme. C'était très agréable. Nous avons vu un crépuscule alors que nous étions au sommet de la mosquée. C'était ravissant, vraiment, délicieux. Malheureusement, c'est comme toujours. On est obligé de continuer le voyage. Et de Djéné, donc nous sommes partis alors qu'il y avait eu des pluies et on nous déconseillait de partir parce qu'il y a ce qu'ils appellent des barrières de pluie. C'est-à-dire qu'on empêche les gens, enfin on déconseille aux gens de prendre la route, la piste parce que c'est dangereux. Ils peuvent. Mais là, il y avait une digue qui était assez bien entretenue, qui servait de route et qui permettait d'accéder à une route goudronnée. Une des rares routes goudronnées, avec une bande de goudron centrale, hein, et quand il y a un seul véhicule qui passe, mais quand on se croise, une partie des roues est sur la bande goudronnée, l'autre partie est de côté, hein, on se croise on se sépare comme ça. Et nous sommes quand même partis. Alors je dois dire, excusez-moi pour l'expression, mais je crois qu'elle image bien ce que nous ressentions. Nous avons vraiment serré les fesses jusqu'au bout jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la route goudronnée, parce que entre-temps, nous avions rencontré à Mopti les gens du Point, qui avaient eu un de leurs véhicules qui s'était. Nous avions des amis, là, des gens avec qui nous avions sympathisé, qui faisaient partie du groupe. Et un des véhicules avait chaviré. Ils avaient perdu du matériel, et puis ils avaient même failli avoir des blessés, oui, graves. Enfin, tout s'était relativement bien passé. Donc, en pensant à ça, et compte tenu de l'état du véhicule, dont la direction n'était pas des plus précises, c'est le moins qu'on puisse dire, nous n'étions pas très tranquilles. Mais enfin, ça s'est quand même bien passé. Nous sommes arrivés sur le chemin goudronné qui devait nous amener dans la deuxième, nous faire retraverser la frontière malienne avec la Haute-Volta, et qui devait nous amener dans la deuxième ville de Haute-Volta, qui est Bobo-Dioulasso. C'est ce que nous avons fait. Nous pensions dormir à la frontière, parce que le chemin était vraiment très long et que la nuit arrive vers les 17h30, 18h, très rapidement. 18h à peu près, oui. Et à la frontière, on nous a dit non, 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 il vaut mieux que vous continuiez. Est-ce qu'ils avaient vendu quelque chose? C'est possible. Nous avons traversé donc la frontière et nous sommes arrivés en Haute-Volta. Et nous sommes arrivés à Bobo-Dioulasso. Nous sommes allés directement à un hôtel que nous avaient indiqué des Français que nous avions rencontrés au cours du voyage, et qui était tenu d'ailleurs par un Français. Et nous étions en train, nous terminions de dîner, lorsque le propriétaire de l'hôtel vient pour nous dire: écoutez, je suis désolé, il y a un couvre-feu, il vient d'y avoir un coup d'État à Ouagadougou. Il y a fermeture des frontières, couvre-feu, on ne peut pas rester dehors, il faut rentrer. En fait, nous étions descendus là pour manger, mais nous dormions dans un hôtel indiqué par le guide de routard, qui était tenu par un Sénégalais d'origine, qui était très très sympathique et avec qui nous avons sympathisé d'ailleurs. Effectivement, Sankara venait de s'emparer du pouvoir sans pratiquement effusion de sang. Ça a été très, très bien fait. Dans le pays, on ne s'en apercevait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas tellement de militaires. Nous avons pu continuer notre voyage tranquillement. Il n'y avait qu'un inconvénient, c'était le soir. On ne savait jamais précisément à quelle heure était le couvre-feu, ce qui fait que ça nous obligeait à rentrer relativement tôt. Mais c'était très élastique, le couvre-feu à Bobo-Dioulasso. Hein. On sortait, on allait manger, et puis on rentrait dans la nuit. Il n'y avait pas trop de problèmes, quoi. Le seul problème qu'on a eu, d'ailleurs, dans l'hôtel où nous étions en bas, au bar, c'est qu'on a volé les traveler chèques d'une de nos Anglaises. Il faut dire qu'à Bobo-Dioulasso, en plus, nos Anglaises. J'allais l'oublier, nous avait fait connaître d'autres Anglais qui appartenaient à l'OMS et qui étaient là pour l'épandage de produits anti-moustiques, enfin anti-moustiques et autres insectes, donc pour combattre les maladies qu'on peut rencontrer sous ces latitudes. Et ils étaient très sympathiques, donc on était tout un groupe, on se retrouvait chez eux. Enfin, ça, je crois aussi que ça jouait. Hein, c'était très, très très sympathique comme ambiance. Nous sommes restés quelque temps à Bobo-Dioulasso. Nous avons profité aussi, bien sûr, pour aller voir ce qu'on nous avait dit de voir dans les environs. Hein. Nous sommes descendus plus au sud encore, de la Haute-Volta. Nous n'avons malheureusement pas vu les crocodiles que j'ai pu voir à la télévision il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs, ce village où les crocodiles sont censés être les ancêtres des personnes du village, et ils les nourrissent, et ils s'amusent avec eux. Je ne sais pas si c'est
Non, non.
amusant, c'est très amusant. Nous ne l'avons pas vu, c'est comme les hippopotames, d'ailleurs. On est allé à l'endroit où il devait y avoir des hippopotames, on ne les a pas vus non plus. J'ai vu par la suite ailleurs. Donc après, nous avons dû remonter sur Ouagadougou un peu plus tôt que prévu parce que malgré tout, mon épouse était très inquiète à cause de ce couvre-feu et de la fermeture des frontières et ne voulait pas manquer le premier avion qui aurait l'autorisation de décoller de la Haute-Volta pour la France parce que nous avions laissé notre fille qui était petite en garde à ma belle-mère. Donc nous avons fait le retour sur Ouagadougou sans problème. À Ouagadougou, nous avons cherché pour nous loger. En prenant les conseils toujours du guide de routard, nous avons fait plusieurs missions chrétiennes. Et nous avons eu la chance de tomber sur une mission évangéliste américaine. Qui avait une petite case en plein centre, enfin qui avait un petit domaine dans lequel il y avait une case réservée aux missionnaires de l'église en question qui était en voyage et qui passait par là. Mais comme il y avait fermeture des frontières, on nous a dit, bon, revenez vers 17h, si personne n'est venu, on vous louera la case. C'est ce qui s'est passé. Alors le soir, on était tranquille, à 2 pas du marché, avec un gardien touareg qui gardait. La propriété qui venait nous dire bonsoir tous les soirs, et une case de 4 ou 5 personnes pour nous tout seuls, pratiquement, à cet endroit-là. Voilà, donc nous avons attendu là le premier avion du point. D'ailleurs, ça a été un avion du point qui a été autorisé à venir, à vide, et à repartir plein. Je veux dire, en entre-temps, donc, nous avons perdu, évidemment, nous avons rendu le véhicule et nous avons laissé notre chauffeur, qui, si mes souvenirs sont exacts, s'appelait. Et nous déplacions à pied dans la ville sans problème. Par contre, à Ouagadougou, qui est la capitale, évidemment, on rencontrait beaucoup d'hommes armés.
Le coup d'État était visible.
Ah là, c'était visible. Il y avait le couvre-feu. Là aussi, on ne savait jamais trop à quelle heure c'était. Et là, il n'était pas question de sortir quand il y avait le couvre-feu. D'ailleurs, nous avons entendu dans la nuit, parfois des coups de mitraillette. Des coups de feu qui. C'était visiblement des mitraillettes puisque c'était rafale. Enfin, il n'y a pas eu comme on le sait, il n'y a pas eu d'effusion de sang, Sankara. Sankara était un homme, je dois dire que s'il n'était pas très aimé par tous ceux qui faisaient des affaires dans le pays, évidemment, compte tenu de son intégrité, par contre, était très aimé du peuple. Nous, nous étions un peu inquiets parce qu'à l'époque, nous avions des problèmes avec la Libye. On disait qu'il était plutôt pro-libyen, Sankara. Enfin, ça s'est très très bien passé. Et il y avait Et moi, il y a une chose qui m'a surpris, c'est que au cours d'une discussion comme ça dans la rue, auprès des petites échoppes où on peut manger, boire, j'ai des Noirs qui m'ont dit, écoutez, ne vous faites pas de soucis, vous serez partis d'ici la fin de la semaine. Et il s'est trouvé, ça s'est révélé exact par la suite. Or, il y avait des comités de salut public qui se réunissaient, donc ces gens faisaient sans doute partie de la population et de la population de ces comités. Ils avaient donc dû avoir des renseignements. Et c'est vrai que le point qui était très bien avec ces pays-là, parce que c'était pas un organisme plutôt qui aidait les pays.
Initialement, le séjour devait durer combien de temps?
Initialement, on était parti pour 3 semaines, je crois, et là, on y est resté 11 jours à peu près.
Ah non, tout à fait, vous avez dû partir avant.
Nous sommes partis avant. Nous avons changé le programme parce que mon épouse était inquiète.
Et
moi, je serais
vous
encore
n'avez
resté.
pas retrouvé les autres.
Non, non, pas du tout, non. Non, eux, ils sont restés, on l'a su par la suite, parce qu'ils étaient exsois, donc on les a revus après. Ils étaient restés coincés de l'autre côté de la frontière, au Mali.
Au Mali.
Ils ont mis longtemps. D'ailleurs, si nous avons pu partir, justement, parce que beaucoup de gens étaient coincés et n'ont pas pu rejoindre, puisque ce n'est pas l'avion que nous devions prendre. Or, ils ont pris en priorité, évidemment, les personnes qui devaient partir plus tôt. Et nous avons été parmi les derniers à monter. Ils ont rempli l'avion, évidemment. Donc quand il restait des places, ils ont fait rentrer au fur et à mesure. Voilà, et nous sommes revenus sur la France, moi, avec beaucoup de regrets, parce que c'est vrai que j'aurais aimé rester plus longtemps, plonger plus longtemps.
11 jours au lieu de
15 jours par semaine qu'on avait prévu. Ouais.